Pour notre 14e talk, nous avons eu le plaisir de recevoir Adeline Odigier, femme aux multiples casquettes, pompier, athlète de décathlon, marin. Son parcours nous a été partagé avec joie, authenticité et passion. Le tout dans un cadre chaleureux. Merci au restaurant Le République de nous avoir accueillis et à l'association Saint-Joseph-à-Fort d'avoir témoigné pour leur action auprès des femmes et enfants en difficulté. Et merci à notre partenaire de toujours, Lélé. Belle écoute!
Bonsoir à toutes. Donc, j'ai été magnifiquement introduite et présentée. Je m'appelle Adeline Odigier. Je suis une vraie Marseillaise d'ici. Je suis née ici, j'ai grandi ici et je suis dans ma 30e année de vie. Donc il s'est passé des choses. Je sais que vous êtes ici pour les thématiques. La thématique qui fait que je suis là ce soir, c'est mon parcours qui m'a amenée jusqu'à devenir marin-pompier de Marseille, dans cette ville. Et ce qui me touche ce soir, c'est que là où on est actuellement, sur ce secteur du premier arrondissement, c'est mon secteur d'intervention. C'est-à-dire que j'ai été confiée dans la caserne qui est juste en contrebas, la caserne de Canebière qui est en face du commissariat, à côté du cinéma des variétés. Donc là, ça me parle, parce que je suis intervenue dans les bâtiments à proximité, parce que je connais par cœur toutes les rues de ces 400 hectares que composent le 1er, 2e, 3e, 4e, 5e et 6e arrondissement. Et parce que c'est aussi une zone où, en cette période de décembre, on fait la distribution des calendriers des pompiers. Donc en sortie de garde, je suis régulièrement venue frapper à certaines de ces portes pour récupérer quelques deniers pour la vie en caserne. Voilà. Ceci étant posé, je vais vous expliquer un petit peu ce qui m'a amenée à devenir marin-pompier de Marseille, parce que ce n'est pas quelque chose qui était évident. Je ne viens pas de ce milieu-là. Personne dans la famille vient du milieu du secteur du soin, du secours. J'ai pas d'exemple dans ce sens-là, et à vrai dire, j'étais pas partie non plus dans cette filière-là. En quelques mots, pour vous planter le décor, marseillaise, j'ai grandi dans le sud de Marseille, famille, je dirais, moyenne, épanouie. On a grandi avec mon frère et ma sœur. Ah oui, parce qu'il y a un petit détail qui est important, qui n'a pas forcément influencé sur mes choix, mais j'ai un frangin et une frangine, et on est tous les trois nés le 2 août 92 de la même maman qui est ici, qui a eu l'immense bonheur d'avoir trois enfants d'un coup. Il n'y en a pas eu avant, il n'y en a pas eu après. Je vous passe les détails qui sont que ça a été une joie, mais qui est arrivée plus tard. C'est-à-dire que je prends sa place, mais si vous lui posiez la question, elle vous dirait que les 7 premiers mois, ça a été horrible, mais qu'après, ça a été du bonheur. Donc évidemment... voilà, on a. Ça l'a fait pleurer, pourtant, c'est juste des choses qui sont vraies. Donc voilà, j'ai grandi avec une petite équipe, un petit trio de louveteaux. Et on a vraiment grandi dans cette ambiance-là. C'est-à-dire que quand on était petit, qu'on prenait des photos en famille, notre papa nous demandait de faire l'équipe. C'est-à-dire qu'à ma droite, à ma gauche, depuis que je suis enfant, j'ai quelqu'un. Et jusqu'à la fin de ma vie, j'aurai mon frère et ma sœur. Et ça, c'est une force parce que je pense que aujourd'hui, quand je me retourne, je sais qu'à jamais je serai entourée. Jamais dans ma vie je serai seule parce que j'ai un frère et une sœur et qu'on se connaît par cœur. Alors je vais vous tout de suite détruire les clichés sur les fratries multiples. Déjà la première chose, j'aimerais bien comprendre pourquoi en 1992 il y avait 0,03% de chances que je naisse triplée et comment ça se fait que j'ai toujours pas gagné au loto. Là, il y a un truc. Pourtant les statistiques sont faibles. Hein. Voilà. Donc, je vous disais que j'avais un frère et une sœur, qu'on avait grandi ensemble, et que j'allais détruire l'idée reçue selon laquelle on lit dans les pensées du frangin et de la frangine, et que même si on est à 800 km les uns des autres, ben, je sens des choses. Pas du tout. Ok, je parcourrais le monde entier s'ils allaient mal, mais s'ils ne m'appellent pas pour me le dire, je ne le sais pas. Donc voilà comment fonctionne notre fratrie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, à 30 ans, on arrive à sortir de table pour se taper dessus alors que ma mère doit nous séparer à 30 ans. Voilà. C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on est rentré dans la pièce, ma sœur a réussi à me pincer 3 fois. On mettait, voilà où on en est, à 30 ans, à jouer encore au louveteau. Donc voilà, c'est une belle force et c'est surtout c'est ce qui m'a permis aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si ça m'a servi... fondamentalement pour le choix pompier, je pense même pas du tout, mais en tout cas la force d'une fratrie, de cette qu'on a en tout cas, c'est qu'on a réussi à se tirer vers le haut tous les trois tout le temps. Il n'y a jamais eu une relation de compétition, il n'y en a jamais un qui jamais on s'est dit il est plus fort que moi, ou de comparaison, ça peut être le cas. Par contre, tous les trois on a grandi dans des domaines différents. Nos parents se sont efforcés de nous mettre dans des classes différentes, donc on s'est construit totalement différemment les uns des autres. Physiquement, on se ressemble pas tant que ça, donc ma jumelle, mon frangin n'est pas là, ça reste un gars, donc il n'est pas invité ce soir, mais ma frangine est là. C'est celle qui a la peau blanche alors que moi j'ai la peau marron, et pourtant on vient du même ventre. Voilà. Donc ce qui fait qu'on ne se ressemble pas physiquement, on ne se ressemble pas dans le caractère, et on ne se ressemble pas non plus dans nos choix de vie. On a eu des amis différents, des amis communs, des passions différentes. Et la force de notre fratrie, c'est qu'on a réussi à s'enrichir chacun des pôles de l'un et de l'autre. C'est-à-dire que moi, j'aurais jamais joué aux jeux vidéo si mon frère n'avait pas été là. Si Mélanie n'avait pas été là, j'aurais jamais rangé ma chambre, je pense. Voilà. Et voilà pour vous expliquer un petit peu le contexte. J'ai grandi dans ça et... Et petite, je ne me suis pas dit je serais marin-pompier. Quand j'étais petite, quand on me demandait le métier que je voulais faire, je voulais tout faire. Je voulais être un couteau suisse. Je voulais être capable de conduire un avion, de piloter une Formule 1, de courir vite, de résoudre des problèmes scientifiques. Et je n'ai pas de meilleure illustration que de vous dire que, enfant, si on m'avait demandé... Si on avait associé une couleur, c'est simple, je vais vous envoyer plein d'images ce soir, d'accord, ça va être très visuel. Si on avait associé une couleur à chacun des métiers, le mien serait un arc-en-ciel. Et c'est vraiment ça. Moi, je veux tout faire. C'est pour ça que finalement, je me suis retrouvée sur le métier de pompier, qui est un métier, comme disaient mes instructeurs militaires, c'est le métier qui en rassemble 120. On fait tout dans ce métier. C'est pour ça que j'ai trouvé mon compte. Mais l'histoire, c'est pas celle-là. Je ne suis pas rentrée tout de suite dans cette institution militaire de Marseille. J'ai commencé par faire des études qui n'avaient rien à voir. J'étais partie pour être ingénieure. Donc je suis allée au bout de mes études, avec quelques petits louvoiements, quelques petits virages. À vrai dire, j'ai commencé par très simple, une prépa scientifique, louvoiement, parce que je ne reste pas dans les rails. Donc je suis partie en DUT, hygiène, sécurité, environnement. Alors ce qui est important, c'est que je ne le savais pas, mais c'est un DUT qui permet... aux gars et aux filles qui veulent devenir pompiers, de devenir tout de suite officiers. À l'issue de ce DUT, de ces 2 ans d'études, on peut postuler pour devenir officier pompier. Ce n'était pas mon projet. Mais l'important dans tout ça, c'est qu'à ce moment-là, j'ai été entourée de pompiers. C'était ma première approche de ce milieu-là. C'est tous les copains qui me racontaient leur intervention alors que j'étais en cours. Et c'est notamment j'ai un exemple qui est flagrant. Un jour, on va en cours, c'est l'après-midi, et moi, je prends mon vélo, j'habitais à La Ciotat, c'était l'IUT de La Ciotat. Je prends mon vélo, je rentre manger, je mange, je reviens sur mon vélo, j'arrive en cours, je m'installe. Et il y a un copain qui toque à la porte, qui arrive 5 ou 10 minutes en retard, excusez-moi, je suis en retard. Il s'installe à côté de moi, et là, il raconte ce qu'il vient de faire, alors que moi, je suis en train de manger. Lui, pendant cette heure de repas, il est intervenu sur un incendie. Donc, au lieu de rentrer manger, il y avait un incendie dans le bâtiment d'à côté. Et il allait sortir une dame. Il est rentré dans les flammes, dans le bâtiment à côté, qui était dans la pièce qui était enfumée, et il a aidé une mamie à sortir de là. Il a été en retard en cours, et quand il nous a raconté ça, je me suis dit, ok. Donc lui, l'heure qu'il a passée, il a sauvé une dame. Moi, mon heure, j'ai mangé, je me suis consacrée à moi. Et lui, il revient en cours, actuellement, il est assis à côté de moi, il va suivre le même... son après-midi va être la même. Et il va reprendre un quotidien classique, sauf qu'entre-temps, il a servi quelque chose, il a aidé quelqu'un. Et voilà, j'ai trouvé ça stupéfiant parce qu'il s'est réassis, il a sorti sa trousse et on a repris le cours. Et moi, il m'a stoppé. Et en fait, à partir de là, il y a une petite graine qui s'est posée. Celle-là, elle n'est jamais bonne parce qu'elle grandit en général. Je poursuis mes études. École d'ingénieur dans le domaine de la gestion et prévention des risques. C'est-à-dire que dans mon circuit professionnel, étudiant en tout cas, il y a une chose qui a toujours été au cœur des choses que je voulais faire, c'était l'homme et l'environnement. Voilà. Malgré moi, il y a cette ligne de conduite là qui est donner du sens à ce que je fais, protéger, préserver, prévenir l'homme de tout ce qui peut l'affecter, mais aussi l'environnement. Donc je continue mes études en gestion et prévention des risques environnementaux et professionnels. Et là, pareil, rebelote, je croise des copains pompiers, sapeurs-pompiers volontaires. Ils me racontent leurs interventions, ça commence à germer, on me dit « Adeline, t'as un super profil, ça pourrait te plaire ce métier-là ». Je dis « Non, non, moi j'étais destinée à être ingénieure, c'est pas ça qui m'attend. T'es sportive, tu peux y aller ». Et la deuxième confrontation à un événement clé, et lui pour le coup c'était l'événement qui m'a fait me rendre compte qu'il fallait que je change de voie. En tout cas, il y avait une voie qui avait plus de sens pour moi que celle de devenir ingénieure en prévention des risques, qui était déjà quelque chose qui me ressemblait en tout cas. Pendant mes études, on part étudier à Cluny. On est en internat dans l'abbaye de Cluny. Donc on n'est que des étudiants. On est en deuxième année d'école d'ingénieur. C'est le soir et moi avec ma petite équipe d'étudiants, on prépare notre repas. On est au premier étage de cette abbaye. Donc des grands couloirs. Mais là on est au pays des Rivoteurs. On vit dans une abbaye. C'est-à-dire que le dimanche matin, moi quand je me levais, il y avait des gens qui venaient prendre en photo nos couloirs. C'est un bâtiment qui est classé au patrimoine et il y a des visiteurs tous les dimanches. C'est vraiment un lieu qui est magnifique. Mais bon, ce soir-là, on se prépare à manger dans un bâtiment et on a deux copines qui arrivent en hurlant. Et qui arrivent en hurlant en nous disant « Il est par terre, il a le crâne qui est explosé, il y a du sang partout, on ne sait pas quoi faire, traumatisé ». Et nous, moi, je suis restée sous le choc. Ma première réaction, c'était de me lever et de partir en courant pour rejoindre la personne qui était blessée. Elle me décrit le lieu. On est 3 ou 4 à partir en courant. Je cours plus vite que tout le monde. Je parcours toute l'abbaye en sprint. Je descends les escaliers et je vois la scène arriver parce que j'arrive 100 mètres dans ce long couloir. Et je vois le jeune qui avait mon âge et qui était affalé dans les escaliers avec le crâne ouvert au sol. Et le temps d'arriver jusque-là, je me suis dit, mais super, j'arrive la première, qu'est-ce que je vais faire? Et je suis arrivée sur des lieux avec ce jeune qui, je ne savais pas s'il respirait, je ne savais pas s'il était en vie, mais il était mal barré. Et j'ai attendu, parce que je suis arrivée sur les lieux et je ne savais pas quoi faire. Et là, les copains qui étaient là sont arrivés. Je les vois encore me passer derrière. Moi, j'étais en stop total. Ils me passent derrière. Et là, ils commencent à agir. Parce que dans les copains que j'avais, il y en avait qui étaient sapeurs-pompiers volontaires. Ils sont arrivés 30-40 secondes après moi. Mais eux, ils ont su quoi faire. Donc, ils ont commencé à penser l'hémorragie. Les pompiers sont arrivés. Moi, j'étais dans la tente. Je leur ai demandé si je pouvais les aider. Ils m'ont dit, va chercher des couvertures. Plus tard, j'ai compris ce que ça voulait dire. C'est une manière d'occuper les gens qui va vous aider. Alors, ça a un vrai sens, hein, parce qu'il faut préserver l'hypothermie. Mais je sais aussi ce que ça veut dire. C'est « Adeline, t'es gentille, mais t'es dans nos pattes et pour l'instant, on gère. Donc, va chercher des couvertures ou va accueillir les pompiers. » Je vous assure que le reste de la soirée a été particulier parce que le jeune homme a été embarqué, il est porté. Et nous, on est retourné manger. Et mon pote qui venait de panser l'hémorragie avec ce qu'on avait, hein, c'était une blouse, il a fait ce qu'il a pu. On a repris le repas, il s'est rincé les mains, malheureusement plein de sang dans l'évier. On a essayé de reprendre le repas normalement, personne n'a mangé. Et moi j'ai passé la soirée à me cogiter, à me dire mais c'est très bien, voilà, tu vas devenir ingénieur, très très bien. Tu cours vite, très très bien. Aujourd'hui c'était servi à quoi? À rien. Est-ce que... électrochoc, quoi. À partir de là, j'ai reconsidéré la fin de mes études et mon projet professionnel est devenu celui de pompier. Ça a été le déclic. J'ai terminé mes études. Avant la fin de mes études, j'étais déjà à Marseille, boulevard Strasbourg, à l'état-major pour déposer ma demande de recrutement. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment j'en suis arrivée là. Donc là, j'ai plombé l'ambiance. Et top. Mais c'est le début. Et en fait, c'est quelque chose qui... je vais vous raconter la suite, parce que ça, c'est intéressant. Il y a plein de choses aussi. C'est un moment... si aujourd'hui, je tombe là tout de suite, si demain, vous partez en vacances au ski et qu'il arrive quelque chose de grave, est-ce qu'il y a quelqu'un autour de vous qui peut vous aider? Probablement, la réponse sera non. Là, je viens de partir en vacances. Et autour de moi, s'il y a quelqu'un à qui il arrive quelque chose de grave, je peux aider. Par contre, si moi, il m'arrive quelque chose de grave, j'étais la seule personne en mesure de porter secours. Personne autour de moi aurait pu me réanimer ou ne connaissait aucun des gestes de secours, quoi. Voilà, donc voilà. Prenons-en conscience. Aujourd'hui, il y a des formations, il y a des choses à faire et c'est quand même passionnant de pouvoir dire avant toute chose, avant d'étudier la météo, l'histoire de France, est-ce qu'il ne serait pas intéressant de se dire est-ce que la copine qui est à côté de moi, est-ce que je peux lui porter assistance, est-ce qu'elle pourra me porter assistance? Voilà. C'est pas la fin du coup, hein, on n'est pas du tout sur la fin du talk, c'est pas du tout la conclusion, je l'amène avant. Donc voilà, je me retrouve à l'état-major, pas bien loin, à poser ma demande de recrutement. Et là, c'est parti pour un petit circuit assez sympa, avec entretien de motivation. Juste avant, Marseille, Paris, deux villes qui fonctionnent différemment de toutes les autres villes de France. On est militaire et pompier. On est d'abord militaire à Marseille, de la Marine nationale. On est marin et ensuite on devient pompier. Paris sont des militaires de l'armée de terre. Et ensuite, ils deviennent pompiers. Le reste de la France, vous êtes secourus par des pompiers civils, professionnels ou volontaires, mais civils. Marseille et Paris, uniquement des professionnels et des militaires. C'est historique. Voilà. Ça change notre circuit de recrutement et notre formation, mais la raison, elle est essentiellement historique. Finalement, on fait exactement le même métier. On est dans des camions rouges pour secourir des personnes, éteindre des incendies, gérer des accidents de la route et toutes les raisons pour lesquelles vous composez le 18. Voilà. Donc, tac, je débarque Bouvard de Strasbourg. Entretien de motivation. Le circuit pour devenir pompier, c'est derrière des tests physiques, des tests psychotechniques, un entretien psychologique. Et ensuite, c'est parti pour la formation initiale de marin. Ça veut dire que j'étais propulsée à Cherbourg. Alors, voilà. Ben, vous, ça vous fait rire, mais moi, quand on m'a dit Cherbourg, ça m'a rien fait du tout parce que je ne savais absolument pas où c'était. Je l'ai découvert. Donc, j'ai vu que c'était sur une pointe d'un coin de France dans lequel je n'aurais jamais posé les pieds. Et j'y suis arrivée au mois de février. Voilà, gros décalage. C'est-à-dire que je suis vraiment arrivée sous une grêle battante et au bout de deux jours, on s'est retrouvés au garde-à-vous avec la grêle plein fer, le froid plein fer, la brume de Cherbourg dans la tête et des champs militaires dans tous les sens. Donc, moi qui venais de terminer mes études d'ingénieur, je vous avoue que j'étais propulsée dans un univers détonnant, quoi. Un truc complètement extraordinaire qui ressemble très fortement à ce que vous voyez à la télé, en fait. À vrai dire, dans les reportages, ce que vous voyez, on le vit. Donc, je me suis retrouvée au garde-à-vous, à marcher au pas, à me rouler dans la boue, à passer des heures et des heures au garde-à-vous pendant que nos instructeurs mangeaient dans le bâtiment d'à côté, à dormir debout, du coup, parce que quand on passe 3 heures à minuit sous la lune, il y a un moment où on ferme les yeux et donc on peut dormir debout. Donc, on ferme. Ça, ça a été l'aventure de Cherbourg. Ensuite, après ça, on devient marin. Moi, mon projet, c'était de devenir marin-pompier. Donc, la suite de l'aventure, c'est à Marseille, dans le quartier de la Parrette, dans le 11e, à Marseille. Et là, on passe 11 semaines à devenir pompier. 6 semaines à Cherbourg, 11 semaines à l'école de la Parrette, ça fait 17 semaines, ça fait 6 mois pour passer de « je ne connais pas cette profession » à « je vais réanimer des gens dans la rue ». Avec un camion rouge. 6 mois. J'ai passé 5 ans à essayer de devenir ingénieur pour ne pas savoir sauver des gens. Et j'ai passé 6 mois de mon temps pour pouvoir sauver des vies et accompagner des gens. Voilà. La réflexion est posée. Donc je me suis retrouvée à la Parrette. Et là, c'était une expérience extraordinaire. J'ai découvert que ce qui nous fait craquer avant la faim et la soif, c'est le sommeil. Parce que je ne sais pas pour quelle raison, mais quand on est arrivé, quelqu'un a froissé un de nos instructeurs et nous ont certifié qu'on allait passer 11 semaines horribles. Donc j'ai passé mes 2 premiers jours à ne pas dormir. J'arrivais de Brest, je ne suis pas repassée par chez moi, je suis arrivée à la Parrette, on m'a dit tu ne dors pas. 10 jours sans dormir, c'est horrible. C'est-à-dire qu'on se couche le soir, couvre-feu à 22h, on passe des journées entières à courir, parce qu'il faut savoir qu'à la Parrette, on ne marche pas, c'est terminé, on court. Notre mode de déplacement, c'est la course. Et je vous assure, c'est vrai, c'est-à-dire que moi, je suis sortie de séance semaine, je courais dans la rue. Hein. Je suis même, c'est horrible. C'est vraiment horrible parce que dans la caserne, je courais, c'est le très bon moyen de se rendre compte qu'on a des bleus, hein, c'est des nouveaux qui arrivent parce qu'ils courent dans tous les sens. Dans la rue, avec les collègues, on marchait au pas. On se synchronisait malgré nous. À force de marcher au pas tous ensemble dans la rue, c'était 1, 2, 1, 2, 1, 2, malgré nous. Quand je récupérais mes tickets pour mes billets de train, à la caissière qui est en face de moi, je les ai reçus, affirmatif. Et on a été mais c'est horrible. Donc ça les fait rire parce qu'ils ont l'habitude, mais on finit formaté, hein. Vous pensez bien, 6 mois à bien soldat, repos, garde à vous, à droite, demi-tour, enfin gauche, demi-tour, droite, tous ces termes-là. À un moment, on ne vit plus que pour ça. C'est-à-dire que les relations familiales, je ne savais plus ce que c'était, c'est qu'on est enfermé dans un environnement pendant 6 mois. Donc là, les 10 premiers jours, à la Parrette, on a été réveillés toutes les nuits. C'était une sanction, on ne sait pas d'où elle venait, mais toutes les nuits, on nous réveillait pour nous faire courir des pompes et jouer un jeu fort rigolo, celui du caméléon. Donc le caméléon, c'est en plein milieu de la nuit, debout, vous avez 2 minutes pour vous mettre en tenue de feu au garde-à-vous dans la cour. Ok, donc pas réalisable, hein, parce qu'on se réveille, on a le cardio à 180. Faut enlever le pyjama, faut mettre la tenue de feu, et il faut courir jusque dans la cour et se mettre au garde-à-vous. En général, on dépasse le temps, donc en général, on se met en position de pompe ou en gainage pendant un bon moment pour repartir avec le chrono lancé pour 2 minutes à se mettre en tenue de sport. Et voilà, et là on s'amuse toute la nuit à faire ça, tenue de sport, tenue de feu, tenue civile, tout ce que vous voulez, mais on se change toute la nuit, voilà. Et quand on n'y arrive pas, on pompe et on fait du gainage. Donc, moi j'ai jamais eu autant d'abdos qu'à cette période-là. Et on a eu d'autres jeux plutôt sympas, bon, essentiellement physiques. On a une activité qui était très sympa, il faut savoir qu'à la Parrette, avant de manger, on fait en bon marseillais, on prend l'apéro, le 51. Mais c'est un 51 un peu remasterisé, mesdames, c'est 51 pompes avant le repas, voilà, à froid. Et c'est aussi le jeu du, vous avez 5 minutes pour manger, sauf que 5 minutes pour manger, entre-temps, on a une obligation de faire les 51 pompes, d'aller se laver les mains, de passer à la rampe un par un, donc c'est un self-service. Au bout des 5 minutes, il y en a un qui arrive au bout de la rampe et les autres n'ont pas mangé, donc on débarrasse, on repart. Donc tu manges pas, tu dors pas. Et là, tu testes. Tu testes tes aptitudes. Parce que, alors, c'est pas des choses malsaines. J'ai vraiment eu des instructeurs qui ont été fantastiques. C'est ce qui se passe en caserne. C'est-à-dire qu'on dort et on est réveillé au milieu de la nuit par une urgence, par un incendie, un appartement enflammé. Et là, le cardio, il monte très très fort. Parce qu'on part en courant dans les camions. Parce que quand on arrive sur les lieux, on s'agite dans tous les sens, parce qu'il faut monter les escaliers en courant, parce qu'il faut tirer des tuyaux, que ça pèse 40 kg ou plus, qu'on a du matériel sur le dos. Donc ça a du sens. Ça a été 11 semaines très très intense d'un point de vue physique, d'un point de vue des connaissances, parce qu'on était quelques-uns à ne pas venir de ce milieu-là. Une minorité, à vrai dire, tout le monde vient du milieu, sapeurs-pompiers volontaires, donc ils ont des bases. Moi j'ai débarqué là. Voilà, j'ai appris tout un nouveau lexique. Ils parlaient entre eux, on n'a pas le temps, hein. Vraiment, il y a 11 semaines, on y va, et ça nous se plie à tout ce champ lexical. On essaie de bien dormir parce que c'est vraiment lourd. Et ça a été lourd en charge émotionnelle aussi, on a vécu des choses. C'est un groupe en fait. On était groupe de 20 personnes qui intégrons cette école. Et quand au bout de 10 jours, on ne nous laisse pas dormir, on nous laisse une nuit de sommeil et on reprend pour 3 jours, à la fin, on craque. Voilà, quand on est au bout, on craque. Et j'ai vécu une scène qui a été merveilleuse, c'est une scène de solidarité. Je pense que j'ai vécu des scènes de solidarité que je n'ai même pas retrouvées en caserne. C'est-à-dire que on était 2 filles dans ce groupe de 20 garçons. J'étais responsable de ce groupe, on nomme un président, voilà, quelqu'un qui va coordonner tout le monde. Et un jour, je retrouve tout le monde en pleurs, au fond de la cour. Donc tous les gars et la seule fille au fond de la cour en train de pleurer. Et quand je vous dis des gars, c'est des bonhommes. Hein. Et quand je vous dis des filles, c'est des filles solides. C'est-à-dire, il y a des muscles de partout, il y a une résistance mentale énorme, et là, une fissuration totale. J'ai cru qu'il était arrivé quelque chose de grave, quoi. Pas du tout. C'était un craquage collectif et respectueux. Quand j'aurais demandé ce qui se passait, ils m'ont dit « on n'en peut plus, mais on n'en peut plus tous ensemble. » Alors on s'autorise à pleurer tous ensemble. Waouh. Donc moi j'ai pleuré du coup, hein. C'est-à-dire j'ai trouvé ça tellement beau que j'ai fondu en larmes aussi. Et là vraiment j'ai une intensité, un esprit de corps et un partage qui a été extraordinaire. Et c'est ce qu'on essaie de faire vivre en caserne aussi derrière, quoi. Fin de la parette, 11 semaines. Après 11 semaines de musculation et de tests physiques et d'apprentissage, et ben on se retrouve propulsé en caserne. Et alors, la manière dont on se retrouve propulsé, à la fin des cours, on se rassemble dans une salle. Il faut savoir qu'à Marseille, on a 17 casernes pour surveiller toute cette population. Il y a 17 casernes qui sont réparties un peu de partout. Dans d'autres villes de France, une ville, une caserne. Dans des villes en format moins grand. Et donc on choisit nos casernes. Et ces casernes-là, on les choisit en fonction de notre classement. Donc on est tous au garde-à-vous dans une classe avec un grand tableau blanc où sont écrits toutes les places dans chaque caserne. Donc caserne de Saint-Pierre, une place. Caserne de Malpassé, deux places. Caserne de Pointe-Rouge, deux places. Et il y a des tirés. Et nous, on est tous au garde-à-vous. Et un par un, on nous appelle du premier jusqu'au dernier. Et on se déplace et on va écrire notre nom en face de ce tiré, là où il y a de la place. Alors des fois, on espérait tomber dans des casernes, mais cette caserne, il n'y a pas de place, donc on ne l'aura pas. Et là, c'est un moment qui est assez fort, parce que c'est la dernière fois qu'on se voit tous. C'est la dernière fois où toute cette équipe avec laquelle j'ai grandi, avec laquelle on a grandi, on a vécu des choses énormes, et on va se retrouver exposés chacun dans nos casernes. Et la vraie vie de pompier va commencer. Toute cette aventure qu'on a vécue, là, formation militaire initiale et école de la parette, c'était que le début de l'histoire, quoi. Et donc on va écrire nos prénoms un par un. Il y a des déçus, il y en a qui commencent à se dire punaise, ça va être horrible, parce qu'il y a des casernes qui sont réputées comme très très dures, et qu'il y en a qui ne voulaient pas y aller, qui se retrouvent à ce moment-là, enfin dans cette caserne-là. Et je pense que là, moi, c'est le moment où je me suis dit ça y est, t'as réussi, arrivé au bout. Tu voulais être pompier, tu y es. C'est pas les 4 ans que j'ai passé ensuite en caserne. Le moment où je me suis dit je suis pompier, c'est ce moment-là. C'est le moment où, quoi qu'il se passe, j'allais aller en caserne. Ma formation, elle était acquise. Et là, je me suis effondrée. C'est-à-dire que quand tout le monde a eu écrit son prénom, c'était la fin de toute cette aventure. Donc je pleure et je revois encore mon instructeur avec toute la gentillesse du monde me dire « Odigier, vous pleurez ?» oui, second maître. Oui, je pleure. Donc, je ne me suis pas étalée, mais ce qui se passait à ce moment-là, c'était vraiment très fort. C'était la concrétisation de mon objectif. Je m'étais donné les moyens d'y arriver, alors que dès le premier jour de mon recrutement, on m'a dit « Écoutez, vous avez 25 ans, c'est la limite d'âge, donc j'avais 24 ans. On peut être recruté jusqu'à 25 ans. Vous avez 1% de chance de passer. Le recrutement va être très très dur pour vous. » Bon. Donc je me suis donné les moyens, j'ai été recrutée, ils ne savaient pas à qui parler. J'avais prévu de devenir pompier, donc j'ai réussi. Mais c'était aussi, voilà, il y avait cette demi-revanche qui était « je veux le faire et j'ai réussi ». Il y avait tous ces copains, je vais les perdre. Et punaise, il y a 6 mois... Pardon ?
Ils étaient sur Marseille.
Ils étaient sur Marseille. Ouais, mais on est un peu perdus les premiers temps quand même. Parce que la fatigue, elle est telle qu'en fait, on ne se croise pas les premiers temps. En fait, on vient en caserne, on dort, on vient en caserne, on dort. Et après, on arrive à se retrouver. Et donc, voilà, ça, c'était le début de l'aventure. Je ne sais plus ce que je voulais dire, mais... Donc, j'ai été propulsée dans cette caserne de Canebière. La vie en caserne, comment ça se passe? Puis à un moment, il va arriver cette question de la vie en caserne pour une femme, comment ça se passe? Il faut savoir qu'au bataillon, on est 3,5% de femmes. Dans ma caserne, on était 80, on était 2 filles. On est une minorité. Ça se passe... Alors là, tout ce que je vais vous raconter, c'est mon histoire. C'est-à-dire que ça m'est arrivé à moi. De la même manière que Ma vie en caserne, elle concerne une période. Aujourd'hui, je peux pas savoir ce qui se passe. Ça a peut-être évolué, pas évolué. Ce qui s'est passé avant, c'était pire, c'était mieux, je ne sais pas. En tout cas, moi, je parle que pour moi, ma vie. Parce que quand je vais vous parler de ma vie en caserne, qui s'est très bien passée, je ne peux pas dire que c'est le cas pour toutes les filles en caserne et je ne peux pas dire que c'est le cas pour tous les jeunes en caserne. Parce que, oui, il y a des difficultés. Et moi, les difficultés que j'ai vécues, c'est les difficultés de tout jeune, pas par l'âge, mais tout bleu, tout rookie, tout jeune, nouveau pompier qui arrive en caserne. Oui, le circuit d'intégration est difficile. On pensait qu'à la fin de l'école, on avait vécu le plus dur. Non. On pensait qu'on faisait un métier dont on rêvait et dans lequel on serait accueillis bras ouverts. Non. L'épreuve, il faut les faire après. C'est un combat constant. Ça se tasse avec le temps, ça se tasse avec les grades. Mais les premiers temps sont vraiment très durs. Vous arrivez dans une caserne où tout le monde est aligné. Votre place, elle n'existe pas. Il faut se mettre dans cette ligne, mais votre place, elle n'y est pas. Et on ne vous invite pas à la prendre. Et à l'inverse, faut refaire et re-refaire et refaire ces preuves. Donc, j'arrive à la caserne de Canebière sur un rythme un peu particulier. Donc, ici, à Marseille, on travaille par tranche de 24 heures. Donc, on arrive à peu près à 6h30 le matin et on repart à 7h30 le lendemain matin. Ça, on le fait 3 fois dans la semaine. Je vais très simplement, vous n'allez probablement pas le retenir, c'est un peu particulier. On marche sur un cycle de 6 jours. Le premier jour, 24 heures en caserne. Le deuxième jour, on récupère. Le troisième jour, on retourne en caserne. On a récupéré 24 heures, mais on retourne en caserne pendant 24 heures. Et ensuite, où on a une astreinte parce que le risque incendie est très très fort l'été, donc on reste proche de la caserne le quatrième jour, soit on rentre chez nous et on a 3 jours de pause. Et après, c'est reparti. C'est-à-dire qu'on va travailler le lundi, le mercredi, le jeudi, on peut être d'astreinte et ensuite on reprend le dimanche par tranche de 24 heures. C'est là qu'on comprend aussi pourquoi la période de formation, elle est intense. Parce que tenir 24 heures éveillées, c'est pas tout à fait dans les clous de notre fonctionnement d'être humain, en fait. Et je parle pour la profession pompier, mais c'est aussi le cas pour tous les métiers de nuit qui sont hors des cycles normaux humains, quoi. Voilà. Donc une journée en caserne, ça commence à 6h30. On arrive pour récupérer le poste du collègue d'avant. On découvre sur quel véhicule on est affecté. Parce qu'on ne change pas de camion comme ça toute la journée. On est affecté sur une ambulance, ou sur le fourgon, ou sur la grande échelle. Et toute la journée, on va faire des interventions qui concernent que ça. On arrive, on a une petite phase d'appel. Ensuite, on a la cérémonie des couleurs. Donc on hisse le pavillon bleu, blanc, rouge, parce qu'on reste militaire. Et une fois dans la semaine, eh bien, on chante la Marseillaise. Et après ça, on va passer cette fameuse épreuve de la planche que vous connaissez peut-être. C'est l'épreuve physique qui atteste qu'on est prêt pour la journée en caserne et que la condition physique est là. Donc on doit monter sur une planche à la force de nos bras. La tradition, en tout cas, dit que si on ne la passe pas, on ne monte pas sur le camion. Voilà, c'est-à-dire que les jeunes repassent cette épreuve tous les jours. Ceux qui sont là en caserne depuis plus longtemps, on parle du principe qu'ils savent le faire. Qu'ils n'ont plus à se hisser sur la planche. Voilà, ensuite on enchaîne sur une journée, la journée standard. C'est derrière, on a un entraînement spécifique. Un entraînement spécifique lié à la pratique pompier, donc des révisions sur le secours à personne ou sur les manœuvres pompiers. On mange classiquement vers 11h30, midi. Ensuite, petite pause. Ensuite, on nettoie la caserne. Deuxième révision de la journée. Séance de sport. Repas le soir. Et ensuite, la nuit. Ça c'est ce qui est écrit dans les lignes. Véritablement, on est quasiment constamment en intervention. Donc ça, c'est la vie classique quand on n'est pas en inter. On a le temps de s'entraîner, on a le temps de réviser. Sauf que bah moi, il m'est arrivé d'arriver le matin, de prendre la première intervention à 7h30 et de ne pas rentrer avant 21h, 22h le soir. Ce qui veut dire qu'à un moment, on accumule de la fatigue. Il faut savoir que quand 22h arrive le soir, qu'on a envie de dormir, il reste encore 9h de travail et 9h réveillées. Donc, c'est passionnant et c'est physique. Moi, je pense qu'on y laisse des points de vie dans ce métier. Il est génial, mais on a des cheveux blancs avant tout le monde. Et moi, j'ai pas de cheveux blancs parce que je suis partie. Je suis restée 4 ans, contrat initial. Bon, le premier contrat, on reste sous un régime militaire, c'est-à-dire qu'on a des contrats qui durent d'abord 4 ans, qui peuvent être renouvelés une deuxième fois 8 ans, et ensuite on devient de carrière, ce qu'on appelle, ce qui correspond à un CDI. Mais les premiers temps, on est sur un CDD. Mais c'est un CDD duquel on ne peut pas partir quand on a envie. Parce que, en tant que militaire, si on part avant l'heure, on déserte. On n'a pas le droit. Voilà. Donc c'est un contrat par lequel on est un peu tenu et on doit tenir jusqu'à ses 4 ans. Qu'est-ce que je peux vous raconter un petit peu de la vie en caserne? Sur l'aspect féminin, sur le fait d'être une femme dans ce milieu-là, il y a une chose qui aide. Il n'y a pas la place de la femme, en fait. Il n'y a pas plus qu'à la place de l'homme, en fait, de ce que j'ai vécu. On est pompier. Et pompier, il n'y a pas de genre. En fait, c'est ce qu'on nous met aussi dans la tête, mais c'est ce qui est vrai. C'est-à-dire que quand il faut intervenir chez quelqu'un pour un incendie, qu'il faut porter des charges lourdes et qu'on a le casque, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, peu importe que vous soyez petit ou grand, à un moment, le travail, il va falloir le faire. Moi, quand je suis arrivée en caserne, au bout de 3 jours, j'ai été convoquée par mes autorités qui m'ont expliqué, et j'ai bien aimé cet échange parce que c'est ça que j'attendais aussi. Ils m'ont dit, écoute Adeline, t'es une fille, mais pour nous, c'est pas important. On sera pas plus dur avec toi, mais on sera pas plus sympa non plus. Tu vas faire le métier comme tout le monde. Et bien, bien reçu, ce bon maître et maître, parce que c'est exactement ce que j'attendais. Moi, je veux pas traitement de faveur, je veux faire le métier comme tout le monde. Il y a autre chose qui aide à ça, c'est notre uniforme forçaillant. On est quand même sur des uniformes tous habillés pareil. C'est des tailles qui sont assez standards, assez larges, donc il n'y a pas de place à la femme, en fait, la féminité. On n'a pas le droit aux boucles d'oreilles, on n'a pas le droit au maquillage, il n'y a pas le droit au vernis, rien. En fait, on est pompiers, on est des professionnels avant d'être des gens et des genres. Donc moi, la vie en caserne en tant que femme, elle s'est très bien passée. Tout le monde a fait la part des choses et j'ai fait en sorte que tout le monde fasse la part des choses. J'ai expliqué à tout le monde que quand je venais en caserne, il n'y avait pas de place à autre chose. Les discussions, elles étaient professionnelles, les échanges étaient professionnels. Après, chaque fille fait sa place comme elle le veut. Si elle veut laisser des ouvertures, elle laisse des ouvertures, c'est des relations humaines. Et moi, je parle pour moi, ça s'est très bien passé. Et on vit des belles choses dans ce métier-là. Moi, je ne vais pas vous parler des interventions tristes, parce qu'évidemment, vous le savez, ce métier, c'est celui qui fait qu'on intervient quand les gens n'ont pas envie qu'on soit là, quoi. On intervient quand c'est triste, quand ça fait mal, quand c'est difficile et on rentre dans l'intimité des victimes. Vous ne nous attendez jamais, quoi. La maison, elle n'est pas prête. Il n'y a pas, l'apéro qui est posé sur la table quand on arrive. C'est toujours, on rentre dans votre intimité avec nos grosses CI, nos chaussures d'intervention, là, nos grosses rangers, sur vos tapis, dans votre intimité. Des moments où... ces moments-là que vous partageriez même pas forcément avec votre famille parce qu'on est un peu pudique de la douleur, Et ben nous, on est là. Et c'est assez particulier ce métier dans ce sens-là, c'est que, enfin, moi je le vis comme ça, c'est qu'on rentre chez les gens, quoi. On rentre chez les gens, on rentre chez vous, et vous nous ouvrez la porte, et vous nous recevez, et on fait notre profession en y mettant tout notre cœur. Et effectivement, des fois il y a des choses dures, et des choses hyper positives. Le moment où c'est bien, il y en a. Et j'en ai un à vous donner. Les interventions, j'en ai faites. Et j'en ai faites une qui était merveilleuse. En rentrant pompier, je me suis dit, ah, j'aimerais bien accompagner une naissance, quoi. Et c'est arrivé. Et je pense que c'est... On n'a pas beaucoup d'interventions comme ça, quand même, parce qu'on accompagne surtout sur des choses difficiles, mais accompagner une naissance, je veux dire, on accompagne des gens qui partent, hein, qui disparaissent. Il y a des moins un, mais il y a aussi des plus un. Et ça, c'est des expériences qui sont fantastiques. Parce que moi, je suis préparée, je suis pas sage-femme, hein, c'était pas mon métier. Et cette intervention-là, elle est fantastique parce que je revois encore mon chef d'agré qui est à côté de moi. On part sur une dame qui probablement qui a des contractions. On arrive sur les lieux et en effet, elle perd les os devant nous. C'était son troisième enfant. Et on lui dit, bah, installez-vous. Elle s'installe. Première contraction. Moi, je vois la tête de l'enfant sortir. Donc, j'ai dû... Voilà. Personne n'était prêt. Hein. On venait d'arriver. On n'avait pas encore posé les sacs. La dame allongez-vous. Ah, la tête de l'enfant. Ok. Et ben, j'ai sorti notre petite pochette, j'ai mis les gants stériles et mon chef, qui était au téléphone pour demander du renfort, parce que là, ça relève un peu plus du domaine médical. Nous, on reste secouristes dans l'urgence. Tous les aspects médicaux, on demande des renforts. Mon chef, à côté, en train de demander les renforts, il me dit non, mais retiens-le. Oh là là, mon copain, retiens quoi? Je mets le pied, je fais quoi? J'ai dit non, chef, bah non. J'ai dit non, je retiens rien du tout, on va y aller. Donc ça s'est extrêmement bien passé. L'enfant est né, il a crié, on lui a coupé le cordon ombilical, la maman était ravie. On les a accompagnés jusqu'à la maternité et j'ai cette chance de pouvoir dire que ouais, j'ai accompagné la vie à ce moment-là, quoi. Et ça, c'est une des expériences positives de ce métier. Et même quand c'est pas positif comme ça, et ben c'est un métier qui est merveilleux. Et au final, moi, je me demande, vraiment, je cherche un métier qui permet de ressentir autant de choses et de mettre en œuvre autant de compétences. Si vous trouvez ce métier-là, dites-le-moi. Voilà, s'il y en a un autre que pompier qui permet de se dépenser physiquement, de se mettre au service de l'autre, d'utiliser toutes ses capacités cérébrales, d'être hyper concentré, de vivre des choses intenses, franchement, dites-le-moi. Là, j'ai des images qui me reviennent. Le métier de pompier, c'est aussi, quand on ne dort pas, s'imaginer que... Je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que des fois, la population, elle joue avec nous. Il m'est arrivé une nuit... On rentre à 22h, on se dit qu'on va se coucher. Donc, dans la caserne de Canebière, il y a des chambrées par type de camion. Si on est sur l'ambulance, on dort tous ensemble. Parce que comme ça, quand la sonnerie retentit, on est averti dans cette chambre-là et on part tous ensemble. Il y a une chambrée par fourgon, pour le fourgon incendie, pour l'échelle, voilà. Donc moi, j'étais dans la chambrée ambulance avec les garçons. On a chacun un lit, on dort dans des duvets. Quand la garde est terminée, on enlève nos duvets et la chambre est prête pour les suivants. Il n'y a pas nos draps qui sont là constamment. Chacun revient avec notre oreiller, notre duvet. On se met dans le duvet. En attendant que ça sonne, on a notre petit bip à côté de la tête et le téléphone. Comme ça, on a double information. Et quand ça sonne, on se réveille. Chacun sa petite technique. Moi, ma technique, c'était... Je mettais le pantalon par-dessus les chaussures. Vous savez, quand on enlève le pantalon, c'est des chaussures qui remontent jusque-là. Poser le pantalon dessus comme ça. Quand je sortais du lit, j'avais juste à enfiler. Je relevais le pantalon et je partais en courant, en finissant de mettre la ceinture, en finissant de mettre le t-shirt, en descendant les escaliers. Ça, c'est un moment qui est génial. Moi, je suis pompier dans l'intervention, mais le moment où je me sens le plus pompier, c'est quand ça sonne en caserne et que je pars en courant. Voilà, là, il n'y a rien de plus. C'est je m'habille, que je sois en séance de sport, tenue de sport, ça sonne. Faut enlever la tenue de sport, faut mettre le treillis, faut partir en courant. Moi, je me réattache les cheveux, j'arrive dans le camion, faut allumer le gyrophare, le deux-ton, débrancher, rebrancher le court-circuit. Tous ces gestes-là, là, de course, tous ces petits gestes de je démarre mon camion, je sors, on me donne le lieu de l'intervention. Ouais, ok, Alors, le lieu de l'intervention, eh ben, on n'a pas de GPS à Marseille, donc faut connaître les rues. Donc là, passionnant. Les premiers temps, je me suis dit, c'est pas possible. À 3h du matin, parce qu'on évolue en poste. Au début, on n'est pas conducteur. On est d'abord secouriste, ensuite on devient conducteur, et ensuite chef d'agré. donc responsable du camion. On est trois dans le camion dans l'ambulance. Et les premiers temps, quand ça sonnait à 3 ou 4 heures du matin, j'ouvrais les yeux, je descendais en courant malgré moi. J'arrive dans le camion et je m'asseyais. Et je voyais le conducteur qui lui réfléchissait au circuit et il était directement actif pour partir très très vite sur les lieux. Les premiers temps, moi j'étais assise dans le coin du camion et je me rendormais le temps qu'on arrive sur les lieux. Enfin, je me rendormais les yeux ouverts hein, parce qu'on n'a pas le droit de dormir. Et je vous assure que je repasculais en me disant mais c'est pas possible. C'est-à-dire que moi je suis encore en train d'essayer de me réveiller et lui il est déjà au taquet à savoir dans quel chemin on va prendre, dans quel sens. Et il est arrivé mon tour hein, où il a fallu que ce soit moi qui réfléchisse très très vite. Donc là, je sais pas, on a des ressources qui font que quand on ouvre les yeux, tout de suite, on se dit, bon, allez, très, très vite, habille-toi, ou il se passe des choses plus vite que quand on est normal. Donc je revois cette journée, cette nuit, on revient à l'intervention, on va se coucher, j'enlève mes affaires, je me mets dans le duvet, ça ressonne, je repars en inter, on revient. Je ne suis pas encore dans le duvet que ça ressonne. Je repars et je vous assure que j'ai fait ça toute la nuit. Toute la nuit, j'ai cru qu'à un moment, j'allais dormir. On n'a pas dormi. C'est simple, à la fin, je ne montais même plus dans la chambre. Hein. Je restais dans le camion en disant, de toute façon, il y a un truc, décompose le lit. Je restais dans le camion en disant, de toute façon, il y en a un qui va poser son pied dans le duvet et ça va sonner. Donc, je suis restée dans le camion et ça a sonné toute la nuit. Donc, c'est rigolo à raconter. Après, je vous avoue que les lendemains, ça fait des choses un peu particulières. Ça a été des années où je pouvais dormir dans ma vie tous les jours. Je dormais tout le temps. Je me souviens un anniversaire. On va au restaurant. Je dormais entre les plats. On amenait l'entrée. Je mangeais. Et en attendant le plat suivant, je posais la tête sur la table et je m'endormais. Voilà, pour fêter mes 26 ans. C'était sympa. Et ça, c'était le cas assez régulièrement pendant toutes ces années. Voilà. On est en caserne, on récupère, on est en caserne, on récupère. Ça a été 4 ans sympas, vraiment extraordinaire. La profession est fantastique. Si j'ai aussi choisi cette profession, c'est parce qu'elle me permettait de m'exprimer physiquement. Et quand je vous ai parlé de... Donc, j'ai été athlète de haut niveau, c'est-à-dire que je fais de l'athlétisme depuis toute petite. On a grandi dans ça, dans le sport avec mon frère et ma sœur. Chacun, on est parti sur des sports différents. Ma sœur a fait du foot, moi j'ai fait de l'athlétisme. Mon frère est un garçon multisport, donc il a tout fait. Et moi j'ai fait de l'athlétisme. Si je vous dis que j'étais athlète de haut niveau, c'est parce qu'à un moment, par les résultats que j'ai fait, on est inscrit sur liste ministérielle, c'est très administratif. On fait un podium français, donc on devient athlète de haut niveau. Athlète de haut niveau, c'est ça, c'est le résultat, mais c'est aussi l'engagement. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai pas de résultat, j'ai pas retrouvé le niveau que j'avais. Enfin, je vais vous expliquer pourquoi, hein, parce que je développe un autre projet et une épreuve qui n'existe pas encore pour les femmes. Donc là, je me suis déjà perdue dans ce que je vous disais, mais je vais revenir sur le côté sportif. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on est vraiment en train de créer, d'essayer de faire évoluer l'athlétisme sur une ligne qui n'a jamais été prise. C'est-à-dire que dans l'athlétisme, il y a plein d'épreuves. Posons les bases. On court, on saute, on lance. 100 hauteur, 100 mètres haies, lancer de disque. Ça, c'est l'athlétisme. On se spécialise dans une épreuve où on ne se spécialise pas. Et quand on ne se spécialise pas, on fait ce qu'on appelle des épreuves combinées. Alors, le combiné, pour ceux à qui ça parle, ce n'est pas du saut à ski et du ski de fond, d'accord ? C'est du décathlon ou de l'heptathlon. Et alors, encore une fois, si je vous dis heptathlon, ne me demandez pas si je fais du cheval. Voilà, c'est pas ça non plus. Ça, c'est du pentathlon moderne. Donc là, je rentre un peu dans un détail, mais qui est assez important, parce que ça m'aide à justifier la volonté de simplifier cette partie obscure de l'athlétisme que sont les épreuves combinées. Dans ces épreuves-là, sur 2 jours, on s'illustre en faisant plein d'épreuves. Donc le décathlon, c'est 10 épreuves en 2 jours. On fait 10 épreuves. C'est des athlètes qui sont très complets, qui sont capables de sauter, courir, lancer. qui font du saut à la perche, du saut en longueur, du saut en hauteur, mais aussi du 100 mètres, du 100 mètres haies, du 400 mètres, du 1500 mètres, du lancer de disque, du lancer de poids et du lancer de javelot. Toutes ces épreuves, elles sont faites en 2 jours. Et c'est celui qui remporte, qui collecte le plus de points sur ces 10 épreuves, qui est nommé l'athlète le plus complet du monde. Parce qu'il n'y a pas un sport qui permet d'être aussi complet, de toucher tout. Aujourd'hui, les garçons aux Jeux Olympiques font du décathlon. Les filles font de l'heptathlon. 7 épreuves. Donc aujourd'hui, les filles, on en fait 7. Niveau international, niveau français, européen, mondial, jusqu'aux Jeux Olympiques, les filles font 7 épreuves. Les garçons en font 10. Pourquoi ? J'ai pas la réponse. Voilà. Et moi, c'est parce que depuis que je suis enfant, on me pose la question, et parce que depuis que j'ai enfant, je n'ai pas de réponse rationnelle à vous donner ou de réponse fondée, que je me dis, mince, moi je suis heptathlonienne. C'est-à-dire que je fais de l'athlétisme. Quand on m'a demandé, on m'a dit spécialiste-toi, ben, un peu quand il a fallu que je choisisse un métier, je dis, ben non, moi je veux tout faire. Voilà, ça continue encore et encore. Donc, j'ai fait de l'heptathlon pendant que les garçons en faisaient leurs 10 épreuves. Et je n'arrive pas à répondre à cette question. À vrai dire, la vraie réponse, c'est que les filles sont arrivées plus tard dans le sport. Les garçons, depuis 1912. Ok, ça fait 110 ans qu'ils font du décathlon. Nous, les filles, on est arrivées plus tard dans le sport. Et quand on est arrivées dans le monde des épreuves combinées, on nous a dit d'abord, commencer par 3 épreuves. Et ensuite, on s'est dit, bon, peut-être en 1964, allez, on vous en donne 5. En 64. Allez, les filles, vous faites la moitié de ce que font les garçons, c'est bien. Et après, en 1984, 20 ans plus tard, on s'est dit, allez, 7 épreuves, les filles, c'est pas mal. Donc 64, 84, on se dit, ah, 2004, on va y aller sur ces 10 épreuves. Eh ben non, on n'y est toujours pas, malgré des efforts qui ont déjà été menés.
2024.
Écoutez, moi j'espère que ce dont je vous parle aujourd'hui, d'ici 2 ou 3 Olympiades, le tir sera corrigé. J'aimerais que d'ici 2 ou 3 Olympiades, on puisse dire qu'il y a du décathlon féminin aux Jeux Olympiques. Avant ça, il y a du boulot à mener. C'est-à-dire que ces 10 épreuves, individuellement, toutes les filles le font. Ok ? Chacune des épreuves qui composent le décathlon sont pratiquées par les filles aux Jeux Olympiques. On pourrait tout à fait pratiquer ces petites épreuves dans le cadre du décathlon féminin. Je n'ai pas de justification aujourd'hui qui font qu'aujourd'hui on ne fait pas de décathlon. Et j'arrive à un point où moi j'ai fait le tour de mon sport, et je trouve que pour aller plus loin, pour être plus complète, et non pas uniquement pour dire je veux faire comme les garçons, c'est pas ça ma démarche. C'est de dire, ok, il existe du décathlon, j'ai le droit de le faire, non ? Eh ben non. Aujourd'hui, du moins, j'ai pas le droit de le faire en compétition. Il y a personne qui l'inscrit à son programme. Au moment où je vous parle, les choses sont en train de changer. On a un groupe de travail qui est porté par la Fédération Française d'Athlétisme. Écoutez, je peux pas vous dire que ce serait une réussite, j'en sais rien. On commence à travailler dessus avec l'ambition de faire de la France un exemple de développement et de passer de ces 7 épreuves à ces 10 épreuves pour pouvoir porter ça à l'échelle européenne, puis mondiale et jusqu'au JO. Pourquoi c'est difficile de passer de 7 épreuves à 10? Je ne les connais pas encore. En fait, je pense que c'est des freins historiques ou c'est la peur. Aujourd'hui, c'est la peur d'aller sur quelque chose qui fonctionne, en fait. Les filles sont très contentes de ces 7 épreuves, les garçons de leur 10. On n'est pas beaucoup à se dire, attendez, nous aussi, on va faire 10. Mais il se passe plusieurs choses. C'est-à-dire que les filles n'ont même pas connu. Moi, quand je suis rentrée dans l'athlétisme et j'ai dit, je veux faire des épreuves combinées, on m'a dit, c'est de l'heptathlon. Et les garçons font du décathlon, c'est comme ça. Aujourd'hui, avec du recul, je me dis, attends, je peux changer les choses quand même, parce que moi, je veux faire 10 épreuves. Mais on nous l'apprend comme ça, les filles, vous faites cette épreuve, les garçons, vous en faites 10. Il n'y a pas de compétition. Et en fait, tant qu'on ne sait pas qu'on peut en faire 10, on ne va pas aller chercher à en faire 10. Le truc, c'est que La Fédération internationale d'athlétisme, World Athletics, c'est quand même assez bien prévenue, a assez bien fait les choses. Elle a écrit dans les textes, le décathlon féminin est une épreuve officielle. C'est écrit dans les textes. Mais il n'y a pas de planning de déploiement de cette épreuve en compétition. Donc les filles, si vous voulez, vous vous entraînez pour faire des épreuves. Par contre, il n'y a pas de compétition. Ah ouais, mais alors dans le monde de l'athlétisme, pas de compétition, on n'est pas un sport de loisirs. Hein. C'est-à-dire qu'on s'entraîne, on se fait mal toute la nuit, là, dans le froid en ce moment, le lactique plein les jambes. C'est mieux si derrière on a une compétition. Hein. C'est un sport de compétiteur. Donc ne pas nous donner de compétition, c'est ne pas accompagner non plus le développement. Et je pense que ce qui manque aujourd'hui, j'espère que c'est ça la clé qui manquait, c'est des volontés. C'est des personnes qui se disent, oh, ok, moi je vais rassembler du monde, et on va se donner les moyens, et je vais vous proposer des plans d'action et des démarches et des compétitions pour que les filles puissent faire du décathlon. Je pense qu'il manquait des volontés. Parce que finalement, les filles d'aujourd'hui, moi quand je démarche les copines qui sont internationales, je leur dis, écoute, ça te tente de venir faire du décathlon? Ben non. Enfin, elles sont internationales, elles préparent les JO, elles préparent le championnat du monde. Et moi, je leur propose de faire un truc qui n'est pas reconnu, qui n'existe pas médiatiquement, pour lesquels elles ne seront pas rémunérées, pour lesquels il n'y a pas de compétition. Donc, je ne peux pas détourner des personnes qui sont aujourd'hui dans le jeu haut niveau dans l'heptathlon. On peut commencer à le faire sur des jeunes générations. C'est pour ça que ce n'est pas un truc qui va arriver du jour au lendemain. Il y a quand même un projet de transition sportive assez important. Et on est aux prémices de tout ça. C'est-à-dire que moi, si je vous livre tout ce que je pense de ça, ben, ce ne sera pas juste parce qu'on a un groupe de travail qui... Il y a vraiment beaucoup de choses à décoincer, beaucoup de verrous qu'on ne connaît pas encore. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, ben, pourquoi les filles ne font pas du décathlon? J'ai pas la réponse, faisons du décathlon. Bon, je ne suis pas dupe. J'imagine que si ce n'est pas le cas, c'est parce qu'il y a des verrous dont je n'ai pas connaissance. Et aujourd'hui, ben, j'attends de m'y confronter pour pouvoir les résoudre, enfin les déverrouiller, du moins trouver la clé. J'ai pas toutes les réponses aujourd'hui. Je pense que c'était des manques de volonté. Il n'y a pas d'arriéré dans ce milieu qui disent les filles disent pourquoi vous ne pouvez pas. Les réflexions des années 1894, la reprise des JO modernes, on disait les filles, vous ne faites pas de sport parce que médicalement c'est pas bon, parce que c'est pas dans vos gènes, parce que vous n'allez pas pouvoir enfanter, vous allez devenir stérile, c'est pas esthétique. Toutes ces réflexions arriérées, je vous assure qu'aujourd'hui je ne les ai pas eues. Hein. Moi, je ne me suis pas encore confrontée. Je n'espère pas, je n'en sais rien, mais je pense que les verrous, ce n'est pas cela, c'est plus de l'ancrage d'habitude. Ça a fonctionné comme ça jusqu'à aujourd'hui, donc on va changer, quoi. Je pense que c'est ça. Mais je suis dans le même flou que vous, en fait. Et moi, ce que je veux faire, c'est, c'est remonter les manches et reprendre ce chantier qui a déjà été mené en 2004, en fait. Parce que figurez-vous qu'aujourd'hui, le record du monde de décathlon masculin, eh bien, c'est un Français qui le détient. Mais en 2004, on a quand même une Française qui a essayé de débloquer tout ça, qui était une ancienne internationale en heptathlon et qui s'est dit « Mais moi aussi, je veux faire du décathlon. » Et elle a monté une compétition internationale et elle a obtenu le premier record du monde. C'est pour ça que quelque part, moi, j'aimerais bien que la France en soit exemplaire sur ça, quoi. On a eu un record du monde français en décathlon masculin et féminin. Cocorico, quoi. En 2024, on a les Jeux. Si la France peut porter ce projet, ce sera bien. Ouais. Et quoi ? Ouais. Et ben c'est le projet. Alors là, c'est la suite du parcours. L'an dernier, moi, je me suis consacrée uniquement à ça, à m'entraîner le matin, l'après-midi. Pour le décathlon, pour être porteuse de projet, donc à la fois porteuse de projet administratif, je dirais, mais aussi athlète, donc pour pouvoir faire moi-même les compétitions. Bon, disons que j'ai eu un accident. Enfin, j'étais partie sur ces rails-là, je me suis consacrée à ça. En même temps que j'ai passé le concours de pompier, je voulais continuer d'être pompier, donc j'ai passé en même temps le concours de pompier professionnel civil cette fois-ci. Parce que j'avais testé le monde militaire passionnant. Mais je voulais tester en tant que bonne curieuse. Je voulais aussi voir comment ça se passait dans le milieu civil. J'ai obtenu le concours. J'aurais dû faire mes premiers championnats de décathlon parce que j'ai trouvé une région qui m'autorisait à participer à une compétition de décathlon en tant que femme. J'ai été percutée par une voiture en moto, donc là actuellement je suis en train de me remettre sur pied pour pouvoir reprendre le projet. Voilà, c'était il y a 6 mois et je suis encore en train d'essayer de me remettre en forme pour ça. Mais je vous assure que je ne vais pas lâcher. Et voilà, ça, c'est le projet des prochaines années et c'est un projet qui me dépasse en plus. Mais aujourd'hui, du coup, je me consacre, comme physiquement, j'ai pas pu reprendre l'activité de pompier à cause de l'accident. Mon statut aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur, formatrice incendie à bord de navire. Donc, quelque part, j'ai retrouvé ce milieu marin, je reste dans le domaine et je boucle la boucle, c'est-à-dire que à l'issue de l'apprentissage, il est intéressant de le transmettre. Donc, je suis dans cette phase-là où je forme des gens à la lutte incendie sur des navires. Et d'ici peu, formatrice secourisme aussi, voilà, pour que autour de moi, je ne sois pas la seule à pouvoir accompagner les gens s'il arrive quelque chose de grave, quoi. Je commencerai dans la famille, hein, maman. Pourquoi avoir arrêté au bout de 4 ans? Alors, déjà je poserai l'information qui est que ça a été génial, ok, vraiment. Quand je suis rentrée, la vérité, c'est que quand je suis rentrée dans l'institution, je me suis dit que je ne ferai que 4 ans. Je m'étais même demandé s'il n'y avait pas un contrat qui était plus court. Il y en avait un à l'époque, c'était un contrat d'un an. Je me suis dit, c'est génial. Je vais pouvoir découvrir ce milieu et puis repartir sur autre chose. Parce que, comme vous j'imagine, en tant que bonne curieuse, un métier dans une seule vie, moi, ce n'est pas mon projet. Donc, j'ai mon projet de multiplier un petit peu les professions. Donc, 4 ans, quand je suis rentrée, je me suis dit, je fais 4 ans, je découvre cet univers. Je m'investis à fond et puis je ne découvre pas que de l'extérieur, quoi, de l'intérieur. Mon corps va changer, la fatigue, je vais la sentir, le stress, l'intensité, je vais le sentir. Je me suis dit, je rentre pour 4 ans. Si la lumière est vraiment splendide, je reste. Sinon, je pars. La couleur était sympa, mais pas si splendide que ça. Donc je suis partie, à vrai dire, ce qui m'a manqué. Il y a le centre de cette profession, le cœur du métier, l'accompagnement des gens. Et puis il y a le fond, il y a la forme et il y a l'environnement. Et cet environnement-là, pompier, à Marseille, marin pompier de Marseille, c'est pas le mien. C'est pas tout à fait le mien. À vrai dire, le moule est assez étroit. Okay. Ça reste une institution militaire avec un fonctionnement à part, avec un système hiérarchique, avec parfois des... Moi, ce que j'appellerais des déviances, mais qui dans ce milieu est normal a priori, c'est des choses qui ne me ressemblent pas tant que ça. Et en fait, je suis restée dans ce moule, mais quand il est trop étroit, ben, soit on reste dedans et on se fait du mal, ben, soit on en sort. Et finalement, j'ai réussi à rester 4 ans, à rester dans les rangs, à dire reçu quand j'avais pas envie de dire reçu et à le faire quand même. Et voilà, 4 ans, c'était bien suffisant. Après, c'était un peu étroit. Ça ne me ressemble pas, en tout cas. Ça ne me ressemblait pas suffisamment. C'est pour ça aussi que j'ai prospecté l'univers civil, parce que c'est notre ambiance de travail. Et voilà, vous voulez que j'étaye sur l'ambiance de travail? Non? Si, hein? Un peu de scoop, un peu de scoop, s'il vous plaît. Comment on a accompagné dans ce métier qui peut être difficile à vivre? Il y a un accompagnement psychologique. Déjà, dès le recrutement, il y a une sélection qui est faite dans ce sens-là. Est-ce que le métier qu'on va faire, il nous ressemble? Est-ce qu'on va pas être choqué, traumatisé? Est-ce qu'on a la bonne image du métier? Est-ce qu'on ne l'a pas trop idéalisé? Donc, il y a déjà un premier tri dans ce sens-là. Ensuite, après chaque intervention difficile, nous est bien rappelé qu'on a un suivi psychologique. On a une cellule psychologique qui peut se déplacer sur la zone d'intervention, qui peut se déplacer en caserne et qu'on peut consulter. Et ça, c'est un vrai rappel qu'on a constamment après les interventions, en particulier les interventions difficiles où il y a eu des décès, des gens brûlés, des choses un peu dures à vivre, qui choquent. Mais hein. Il serait fou de dire qu'on s'habitue à ces choses-là. On ne s'habitue pas, on se blinde, on prend un statut. Donc il y a un suivi psychologique pour tout ça, on est accompagné. On est suivi. Et je vais vous dire quelque chose, c'est... Moi, à la base, j'aime pas trop le sang. Hein. Moi, à la base, quand ma maman, elle se brûle, en sortant les plats du four, j'ai des frissons dans tout mon corps. Hein. Ça se passe pas bien. Hein. Voilà, initialement, je suis pas très à l'aise avec tout ça. Et pourtant, je suis rentrée dans ce milieu. Et je me suis forgée ma personne. Le pompier Odigier, quoi. Matelot ou caporal Odigier, quartier maître Odigier, c'est quelqu'un d'autre. C'est quelqu'un qui, en intervention, quand elle voit du sang, elle se dit « Ok, c'est du liquide qui sort de la machine. S'il en sort trop, la machine ne va plus marcher. Donc le liquide, il faut l'empêcher de sortir. » C'est quelqu'un qui se dit « Ok, le moteur, il est cassé, il faut le réactiver mécaniquement. » Voilà. En tout cas, moi, ça a été ma stratégie de base. Je regardais urgence, c'était horrible pour moi, d'accord ? C'est pas... Je ne suis pas faite pour ce milieu, hein, je pense, à la base. C'est pas... Alors, il y a des personnes pour qui c'est le cas. Vraiment, j'ai des copains et des copines qui sont rentrés dans le milieu médical en se disant « Oui, l'idée d'opérer des gens, d'ouvrir des pots, de... Voilà. » C'est leur passion, ils ont ça, ça les anime. Quand on disséquait des rats ou des grenouilles au lycée, ils adoraient ça. Moi, ça me rebutait. Et pourtant, j'ai créé mon personnage, sans m'abîmer. C'est mon personnage avec mon uniforme. C'est là aussi où cet uniforme, il a une symbolique. C'est-à-dire que quand j'arrive en caserne, je mets l'uniforme et je deviens le quartier maître du pied. Et à la fin de ces 24 heures de garde, j'enlève cet uniforme. Je me réhabille en civil. Et l'uniforme, il part à la machine. Et je lave ce qui s'est passé. Il y a une symbolique qui est forte, enfin en tout cas pour moi elle est forte. Je lave mon uniforme, ce qui s'est passé la veille, je l'oublie. Quand je rentre chez moi, je ne pense pas à ce qui s'est passé. Et chaque garde est différente. Je ne ramène pas des dossiers à la maison. En tout cas, consciemment. En effet, derrière, il se passe autre chose. Et quand on quitte l'institution, on nous rappelle bien que les traumas, ils peuvent arriver 2-3 ans après. Parce que tant qu'on est dans ce milieu-là, tout ça, ça nous paraît normal. On peut échanger avec des pompiers. Ouais. On peut échanger, c'est notre quotidien. Et quand on se retrouve de nouveau dans le milieu civil, on se dit, mais ça y est, à qui je parle de tout ça, de ces interventions qui pouvaient être choquantes ou pas. Et ça peut redevenir pesant. Mais je crois que l'accompagnement est plutôt bon. Donc la transition, le retour vers la vie civile, encore une fois, on a un accompagnement pour ça. Parce que voilà, il y en a qui rentrent à 18 ans dans cet univers-là et qui ne connaissent que ça. Le milieu de la caserne, le milieu militaire, le milieu pompier. Et en général, quand ils retournent dans la vie civile, on leur rappelle qu'il n'y a pas de grade et qu'un quelqu'un qui est hiérarchiquement en dessous, on ne lui donne pas d'ordre. On assouplit un petit peu. Les nouveaux, quand ils arrivent dans l'entreprise, on les accueille gentiment. On leur demande pas de faire leurs preuves. On leur parle. Voilà, tout ça, je vous le dis parce que, à l'inverse, quand on arrive en caserne, quand on est un nouveau, on ne parle pas. Enfin, moi, je ne parlais pas. Je mangeais seule à table. L'esprit de corps, de cohésion, pas du tout. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là ? Donc, en effet, de repartir dans le monde civil, ça peut être particulier. Moi, pour mon cas, je suis venue du monde civil. Quand j'étais ingénieure, j'ai fait en alternance. Donc, voilà, l'univers d'entreprise. Salarié, je l'ai connu. Je suis arrivée dans ce milieu pompier, je me suis dit ok, d'accord, bon, il va falloir que je formate tout ça. Et quand je suis repartie, j'ai déformaté. Mais je reconnais que ça peut être vraiment difficile sur quelqu'un qui est rentré à 18 ans, qui se fait une idée du monde, du travail par ce biais-là à Marseille, Marin Pompier de Marseille. Encore une fois, je ne parle pas des autres casernes de France, je pense que ça fonctionne différemment. Il y a un petit temps d'adaptation. Il y en a qui s'adaptent, il y en a qui ne s'adaptent pas. Hein. C'est un peu particulier. Il y a une notion qui est très forte dans le milieu civil, c'est le bien-être au travail. Voilà. Dans le milieu militaire, voilà. T'as un matricule, tu fais ton travail. Et puis si tu veux plus le faire ou que tu le fais mal, ton matricule il saute, quoi. Ou à un moment tu vas sortir vraiment. De savoir si t'es bien au travail, si t'es en situation d'épuisement professionnel. Peu importe. La porte est ouverte et à l'inverse, la porte d'entrée, il y aura toujours du monde devant qui fait la queue. Voilà. Après, on l'accepte. Hein. Parce que quand on rentre dans cette institution-là, on connaît ou pas les codes. Et normalement, on les connaît. Il y a quand même un moment où on signe un contrat où il y a écrit qu'on est militaire et qu'on est militaire en tout temps, en tout lieu, disponible tout le temps, quoi. C'est-à-dire qu'on peut être rappelé en vacances, en permission. Moi, j'ai été rappelée pour me dire il manque quelqu'un à la caserne, tu redescends de Grenoble. Reçu. Tu prends le premier train. Reçu. Je pense vraiment que ça. Alors, ce qui n'est pas mon cas, mais moi, j'ai vu des jeunes arriver en caserne, ne plus jamais remettre les pieds, Et on a appelé à leur domicile en disant c'est votre enfant, on n'est pas en caserne. Donc déjà, on aimerait bien savoir s'il va bien. Oui, il va bien, il est à la maison, mais il ne reviendra plus jamais. Vous avez un peu abîmé mon fils, quoi. Okay. Donc oui, il y a des gens que ça peut détruire. Moi, je pense que ça ne l'a pas renforcé. Mon caractère, ça l'a éprouvé, quoi. Ça a été un vrai test de dire ouais, ok. Ok. Tu penses que tu es forte, est-ce que tu l'es vraiment? Est-ce que mentalement tu peux supporter? Et je suis pas sûre que ce soit même le bon test de l'épreuve mentale. Parce que. Ouais, non, c'est exactement. J'allais y aller. Je pense que le sport est une bien plus belle épreuve mentale et une bien plus belle construction mentale que cet univers-là. Parce que là, c'est un peu. C'est coercitif, c'est. On se fait fouetter. Enfin, c'est pas fouetter, hein, mais c'est. On éprouve, quoi, on teste. Ouais. Marche ou crève, c'est la même expression. C'est. On teste le mental, on le construit pas là, on l'éprouve. Le milieu sportif, on l'enrichit, ce mental. Là, on le développe à fond. Ah oui, la résistance, en plus, on y va avec. On y va avec de l'envie. Enfin, moi, le sport m'a apporté énormément. Le dépassement. D'ailleurs, c'est un prétexte, le sport. C'est un prétexte pour vivre des choses. C'est comme l'art, j'imagine. Ce sont des prétextes pour rencontrer des gens, pour se rencontrer soi-même, pour se tester physiquement, pour se tester mentalement. C'est la capacité à construire des projets, à se fixer des objectifs, à les atteindre, à être régulier. C'est des prétextes à voyage. C'est énorme. Mais de toute façon, je vois que ça te parle. Où est-ce que je me vois dans 10 ans? Bah pas là, je dirais que je ne serai pas à Marseille, ou alors si j'y suis, c'est que j'ai déjà bougé 2 fois de ville et que j'y reviens. Je me vois bouger. J'ai vraiment des cycles d'intérêt qui durent entre 2 et 4 ans. Donc là, je suis partie sur une profession qui peut durer peut-être plus longtemps si elle me permet de m'épanouir et de voir autre chose en même temps. Mais si ce n'est pas le cas, dans 4 ans, je serai ailleurs. Voilà, j'ai des idées de formation kiné qui me trottent dans la tête. Si le projet sportif prend de l'ampleur, ce sera lui qui prendra le devant. Mais je ne serai pas à la même place, c'est sûr. J'aurais bougé dans 10 ans. J'irai entre 2 et 3 fois, j'aurais bougé. C'est hyper fou, mais j'ai pas de réponse de là où je serai dans 10 ans, parce que je ne sais pas. Donc dans 10 ans, j'aurai 40 ans. Et ben, je serai en méga forme. Parce que je le dis, je le répète, je pense que j'ai 15 ans qui vont être géniaux, au moins 15. Parce qu'après, j'avais pas projeté, mais les prochaines années vont être dingues. J'ai plein d'énergie, j'en ai encore pour ces 15 prochaines années. Et du coup, dans 10 ans, je serai toujours debout déjà. Je pense que je ferai toujours du sport. J'aurai toujours des ambitions. Mon vrai rêve, qui ne sera pas des rêves, qui sont des objectifs, c'est de continuer à me réveiller le matin en me disant non, mais je kiffe ce que je fais, quoi. Et j'arrive à trouver mon équilibre à l'échelle d'une semaine ou d'un mois entre le sport, le déplacement, les rencontres, ce que j'apporte aux autres, ce que j'essaye à un moment de pouvoir apporter aux autres ou à l'environnement. Vraiment, mon rêve, mon objectif, c'est de m'équilibrer entre ma curiosité, mon appétence pour tout et ce que je peux offrir, quoi. C'est ça. Mais voilà, moi je suis preneuse, hein. Si vous trouvez des métiers qui permettent de faire tout ça, donnez-les-moi, je vais les expérimenter avec grand plaisir. Le côté marin était plus dur que le côté pompier. Je crois que c'est pas le milieu. En fait, l'aspect marin, pour moi, ça a été uniquement les classes à Cherbourg. Et ça n'a pas été dur du tout. Mais en fait, ouais, en fait, il faut savoir qu'à Marseille, on est marin-pompier de Marseille. On est surtout pompier de Marseille. Et de temps en temps, on va défiler le 14 juillet. Et on chante la Marseillaise et on fait des cérémonies. En fait, on est militaire dans ce sens-là. Et c'est pas ça qui justifie que des fois l'environnement il est défavorable au développement de l'être humain. Je pense que c'est des habitudes. Encore une fois, c'est des espèces de traditions qui sont là, de dire ok, les plus anciens, ils doivent mettre la pression aux nouveaux, parce que sinon ils se font mettre la pression par ceux qui sont au-dessus. Il y a une espèce d'habitude de dire oui, ça doit être un métier dur, donc on va rendre leur vie dure, mais c'est pas l'aspect militaire. Parce que sinon on est militaire qu'à ce moment-là, quoi. Pour le reste du temps, franchement, c'est pas. C'est une institution militaire dans le nom et par le fait qu'on soit sous tutelle du ministère de l'Intérieur, des armées, mais pas. Je me sens pas militaire en étant marin-pompier de Marseille. C'est pas les déviances, mais les choses qui ne correspondaient pas, elles sont. C'est l'institution, pas militaire. C'est Marseille. Ah, j'adore ma ville, hein. C'est la plus belle ville du monde. Je passe à Marseille, c'est le monde pompier à Marseille. C'est les casernes où, en général, avec difficile, il est associé le nombre d'interventions. C'est-à-dire que, très simple, la caserne de Lumigny, qui est à l'autre bout du monde, sur un secteur où il n'y a pas grand monde, où peut-être les personnes appellent moins fréquemment, parce que c'est peut-être plus l'habitude des raisons pour lesquelles on appelle le 18, qui est un service d'urgence, ils n'ont pas beaucoup d'interventions. Ils ne font pas beaucoup d'interventions. Dans la journée, s'il y a une ou deux interventions, c'est le bout du monde. Canebière, c'était 20 interventions par jour. C'était presque une intervention par heure. Ou en dorme pas. Donc ça, c'est des casernes qui sont difficiles parce qu'il y a de la fatigue et parce que du coup, on a moins le temps de vivre en caserne aussi. La cohésion, elle se fait peut-être un peu moins. Et avec je sais pas pourquoi, mais ces casernes où il y a beaucoup d'interventions, l'exigence, elle est assez. C'est pas l'exigence qui est élevée, parce que l'exigence, elle est élevée dans toutes les casernes. Vraiment, il y a un truc qui est commun à tout le monde, c'est que tout le monde fait extrêmement bien son travail et de manière professionnelle. Cette espèce de forme, je pense, qui est un peu difficile à vivre, c'est ça qui rend une caserne difficile. Et cette ambiance-là, elle existe dans les casernes où il y a beaucoup d'interventions. Je garde le fait que pour l'instant, je n'ai pas trouvé un métier plus intéressant que celui-là, pas encore aussi. J'en garde des bons souvenirs, j'en garde une attitude personnelle, une capacité à me dire « Ok, maintenant ce jeune-là qui est tombé dans les escaliers il y a quelques années, eh ben, j'arriverai en courant la première, mais en plus de ça, je pourrais l'aider. » J'ai bouclé la boucle. C'était un peu ça que je venais résoudre probablement au début, et aujourd'hui j'ai cette confiance de pouvoir dire ok, s'il arrive quelque chose dans ma famille, dans mes proches, ce soir, je pourrais être là pour vous. Quoi. Qu'est-ce que je dirais à un jeune qui veut s'engager dans ce métier? Déjà, dans quelle vie tu veux aller? Je dirais commence par être sapeur-pompier volontaire. Commence par être jeune sapeur-pompier. Il y a moyen de découvrir cette profession dès qu'on est lycéen. Dans toutes les villes de France, on peut être, au lieu d'aller au centre aéré, faire son petit sport le mercredi ou le samedi, eh bien, on va découvrir le métier de pompier, de la seconde à la terminale. C'est le moyen de déjà rencontrer ce métier-là une première fois, de le rencontrer une deuxième fois à travers sapeur-pompier volontaire, avant de s'engager en tant que professionnel. C'est ce que je dirais à un jeune. Découvre d'abord le métier en étant volontaire, avant de t'y engager corps et âme et temps, tout ce que tu veux. Testez-le. Ah si, je vais retenir une chose de ce métier-là. Parce que là, je vous vois manger le dessert. C'est que moi, il y a une habitude que j'ai gardée, c'est que je commence par le dessert dorénavant. Pourquoi? Oui. Parce que c'est la chose que je préfère, et quand je commence mon repas par le dessert en caserne, je suis sûre que j'ai mangé ce que je voulais, si ça sonne. Voilà. Est-ce qu'il y a... Non, c'est bon ?